La revue de presse, Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous. C'est décidé, j'écris mon roman. Cette phrase, c'est le titre d'un papier publié dans l'hebdo Vraiment. Si l'envie vous titille depuis 5, 10 ou 15 ans, c'est le moment de vous lancer et d'apprendre à dompter votre angoisse de la page blanche, explique Sandrine Chienel qui signe l'article. Et elle nous donne plusieurs conseils. Tout d'abord, s'inscrire à un atelier d'écriture. Ensuite, prendre le temps de ne pas se précipiter. Éventuellement, poser un congé sabbatique. Mais il y a aussi des façons de faire nettement plus rapides. Par exemple, en cherchant dans les archives de Slate, on trouve des tutoriels super intéressants. L'un date de 2010, je veux écrire comme Marc Lévy. L'autre date de 2014, je veux écrire comme Guillaume Musso. Des séries d'exercices afin d'apprendre les techniques des champions des best-sellers.
Et que disent ces tutoriels?
Eh bien, ils nous donnent les bases d'un roman à succès. Bien sûr, il faut une histoire d'amour, un coup de foudre et de la passion, mais aussi quelques désaccords. Pourquoi pas un secret de famille? Il faut également défendre des valeurs. Et puis, il faut du style, des images, des formules d'un homme. On peut dire qu'il a dans le cœur un sentiment profond d'abandon et de solitude. D'une femme, on peut dire qu'elle a une odeur fraîche et vibrante d'agrumes, de menthe et de lavande. Et que le téléphone d'un des héros se met à sonner, ça ne rime à rien d'écrire. Qu'il sonne au fond de son sac, non. Mieux vaut écrire qu'il vibre dans un feulement mécanique. Du style, des valeurs, de l'amour. Et on peut ajouter des faits d'actualité, ça donnera un roman moderne. Alors, allons-y, risquons-nous. Tentons donc l'écriture d'un roman.
Et c'est donc une histoire d'amour.
Oui, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Entre Betty et Jean-Kévin. Betty a une odeur fraîche et vibrante d'agrumes, de menthe et de lavande. Jean-Kévin a toujours eu dans le cœur un sentiment profond d'abandon et de solitude.
Et ils se rencontrent où ?
Sur une terrasse, à Paris. C'est la ville de l'amour. Mais c'est également celle des tentes de migrants, ainsi que l'annonce Le Parisien ce matin. Paris, le nouveau Calais, titre le journal à sa une. Chaque semaine, plus de 500 déracinés d'Orient et d'Afrique affluent dans la capitale. Ils sont maintenant près de 3000 à camper au nord de la ville. Les riverains décrivent leur quotidien sur les rives du canal Saint-Martin et celui de Saint-Denis. Des déchets partout, des risques sanitaires et parfois des bagarres. Ils disent qu'ils se sentent abandonnés par la mairie. Réponse d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Elle explique que la mairie fait tout ce qu'elle peut, mais que c'est l'État qui légalement est responsable de l'accueil des réfugiés, témoignage de ces réfugiés qui, eux aussi, comme les riverains, se sentent abandonnés. Ils racontent leurs conditions de vie déplorables. La peur des maladies est celle de tomber dans le canal, les douches glaciales, l'espoir de jours meilleurs. Ils ont fui la misère ou la guerre, perdu des parents, des amis, risqué la mort en traversant la mer. Certains ont connu l'enfer de la Libye. Désormais, ils attendent.
Et nos deux héros dans tout cela?
Eh bien, notre héroïne, Betty, va s'engager pour aider les migrants. Elle ne supporte pas la misère. Jean-Kévin y est moins sensible. Lui, il bosse dans une start-up. Il a fait de brillantes études et ses parents sont pleins aux as. Elle, sa famille vit dans une tour en banlieue parisienne. Elle y a passé sa jeunesse et elle espère beaucoup du plan présenté par Jean-Louis Borloo.
Plan qui suscite la perplexité des journaux
ce
matin.
Oui, tout le monde reconnaît la grande valeur et l'énergie de Jean-Louis Borloo. Son rapport a l'immense mérite de développer une approche globale et humaine, note ainsi Nice ce matin, mais ses propositions, disent certains, sentent le réchauffer. Un air de déjà-vu, de belles paroles qu'on a l'impression d'avoir entendu 1000 fois depuis les années 80, abonde le courrier Picard pour l'opinion. Ce rapport va surtout coûter très très cher pour l'humanité. Les intentions sont bonnes, mais il n'y a pas les moyens. Du moins, Borloo ne dit pas comment financer ces mesures.
Revenons donc à notre roman. Il nous faut maintenant un secret de famille.
Oui, le secret, c'est que les grands-parents de Jean-Kévin sont nés en Corée du Nord.
Ah. Les deux?
Il le dit à Betty après leur première nuit d'amour. Et c'est pour cette raison qu'il est très intéressé par la rencontre qui a lieu ce vendredi. Les dirigeants du Nord et du Sud se retrouvent à la frontière pour un sommet décisif. Corée, une chance pour la paix, titre à sa une Lacroix qui est allé interroger quelques Sud-Coréens. Tout s'évoque un vent d'espoir, peut-être une chance unique qui ne se représentera pas, mais aucun ne semble vraiment croire à une future réunification.
Il faut aussi des désaccords dans notre roman.
Ils sont assez nombreux, de quoi écrire plusieurs chapitres. Betty trouve que Jean-Kévin passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Elle lui fait lire l'analyse du philosophe Roger Paul Droit que publie Les Échos. Lisez-la aussi. Il explique qu'avec Twitter, les hommes et les femmes politiques se sont mis à patauger au milieu des stars du showbiz, du cinéma et du web. Avec leurs tweets, écrit-il, les politiques ont désacralisé leurs fonctions. Betty reproche aussi à son amoureux de lui faire sans cesse des reproches, justement. Elle ne serait pas assez cultivée, pas assez mince, pas assez musclée, pas assez performante dans son boulot. Elle lui fait lire le dernier numéro de Philosophie Magazine. Passionnant numéro consacré au culte de la perfection. Jusqu'où faut-il s'améliorer? Questionne le mensuel. Réponse, il est parfois urgent d'arrêter de vouloir toujours être le meilleur. Et puis nos amoureux se disputent également à propos des repas. Ils n'ont pas les mêmes goûts culinaires. Betty ne jure que par le gâteau, le Calais, dont on trouve la recette ce matin dans Nord Littoral. Jean-Kévin, lui, ne jure que par la glace à la rillette, dont Le Maine Libre nous apprend qu'elle fait le buzz aujourd'hui, non seulement en France, mais dans le monde entier.
Et alors, ils vont se séparer?
Non, l'histoire ne s'arrête pas comme ça. Elle ne s'arrête pas de cette manière. L'amour qui est grisant, comme un saut dans le vide, sans parachute, sans élastique. L'amour est plus fort que tout, Nicolas. Et puis surtout, nos deux héros savent comment se réconcilier. Ils ont lu dans La Vie que pour être heureux, il suffisait parfois de marcher. C'est la thèse d'un explorateur et philosophe norvégien. La marche comme un art de vivre qui réenchante le quotidien. Et l'hebdo donne ses conseils pour bien marcher. D'abord, il faut adopter un rythme lent. Ensuite, il faut partir léger. Un carré de chocolat, c'est mieux qu'une tablette. On se contente de joies simples. Ensuite, bon, il faut marcher pieds nus le plus souvent, c'est mieux. Et puis, si possible, monter les escaliers en marche arrière. Là, je sais, c'est pas très simple. C'est même assez risqué, le roman se termine de cette manière-là. Jean-Kévin tombe à la renverse. Betty explose de rire. Puis son téléphone se met à vibrer dans un seulement mécanique.
Merci Frédéric Pommier pour ce roman.